helper, sucker. Helper, sucker. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast à l'animation Adi Raphaël. Je suis rejoint par l'ex-rédacteur en chef de Culture Soccer, mais toujours rédacteur, toujours très impliqué ici sur Culture Soccer, Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien?
Hello Adi, très content d'être là. Tout va bien tant que Seattle est toujours en playoff.
Ouais, bah oui, je suis sûr que t'en doutes pas. Une autre personne qui va pas, malheureusement, pourra pas dire de même, bah, c'est notre ami Raphaël Croisard. Raphaël est rédacteur aussi à Culture Soccer et je suis très heureux de pouvoir discuter de foot avec lui aujourd'hui. Salut Raphaël, ça va bien aujourd'hui?
Salut Adi, salut Antoine, ça va super, merci.
Ça va super, mais ça va pas bien en playoffs pour toi, hein?
Oh, bah moi, ça va, maintenant je suis habitué. Et j'ai eu le temps de les regarder et de voir que mes deux équipes sont pas là, donc bon, tant pis.
Bah voilà, pour ceux qui
peut-être, on espère.
Exactement, pour ceux qui savent pas, bah, c'est Atlanta et LA Galaxy, tes deux équipes, si je me trompe pas.
C'est ça, totalement. Mes deux comptes sur Twitter que je gère maintenant depuis plus de deux ans, donc voilà.
Voilà, exactement. Donc, je vous conseille de les suivre. Vraiment de très beaux, des contrées très animées qui offrent du bon contenu pour Atlanta et LA Galaxy FR. Donc, je vous conseille de les suivre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vous parler un peu du programme du podcast. Donc, en premier, on va parler des demi-finales de conférence Ouest en premier. Avant de faire un petit, on va mettre la table pour les finales de conférence, que ce soit à l'Ouest ou à l'Est. Et après, on va parler un peu du marché des entraîneurs, parce qu'on a quand même quatre clubs qui sont à la recherche d'entraîneurs. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent, mais on va parler un peu de ça. Et on verra si, à la fin, on parle aussi d'autres choses et on vous donnera un petit contenu bonus pour un peu aussi dresser la table sur d'autres choses. Donc, on verra ce qui se passera. Commençons tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Les amis, première demi-finale de la conférence Ouest, c'était entre Seattle, les Sounders de Seattle, face au FC Dallas. On a tendance à dire que c'est l'expérience de Seattle contre la jeunesse du FC Dallas, mais c'était pas trop ça, n'est-ce pas Antoine?
Ouais, c'est un match intéressant parce que c'est un match assez rare où Seattle, les trois un peu gros de Seattle, les héros Maurice et Rui Diaz, ont eu du mal. Face à Dallas, ils n'ont pas été dans un bon match, j'ai trouvé. Et en fait, bah, je trouve que c'est un peu l'expérience des playoffs, justement. C'est qu'une équipe qui gagne des coupes, que ce soit MLS ou autre, c'est une équipe qui peut, qui voilà, parfois a du mal dans certains matchs, mais gagne à l'arrache, comme là, ça a été le cas avec un but du défenseur O'Neill, un vétéran vraiment de la MLS qu'on n'attendait peut-être pas titulaire à ce niveau-là de la compétition et qui marque de la tête sur corner. Donc, c'est vraiment pas le plus beau match de Seattle, mais il faut savoir en gagner comme ça pour avancer dans les playoffs. Et ça a aussi pu montrer que Seattle peut gagner d'autres manières. Pour Dallas, c'est dommage, il y a eu des occasions très franches, notamment un poteau, un poteau puis un arrêt de Gomez vraiment, sur un tir qui allait aboutir à un but, je pense. Et c'était un beau match de Dallas, mais ouais, il y a eu pas mal aussi d'occases du côté de Seattle.
Ouais, effectivement, c'était quand même un match extrêmement équilibré entre les deux équipes, ça c'est sûr. Raphaël, est-ce que tu penses que cette équipe-là, si tu regardes un peu Seattle, je suppose que tu es comme moi, tu vois Seattle, tu t'attends, tu regardes un peu les noms qu'il y a là, on a tellement l'habitude de les voir, on sent tous qu'ils sont 35 ans, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe, on a tendance à l'oublier, jeunes, donc quand je dis jeunes, des joueurs en dessous de 25 ans, comme Nuhu Tolo ou comme des joueurs comme les Roldan, en fait, ou même des joueurs qui sont expérimentés, mais qui n'ont même pas atteint 29 ans. Donc, c'est quand même intéressant de voir cette perception qu'on a un peu de Seattle, de cette équipe un peu composée de vieux briscards. Est-ce que toi, tu as cette même impression-là quand tu penses à Seattle?
Ouais, oui, tout à fait. C'est vrai que quand on pense à Seattle, les premières choses... En fait, on pense à une équipe d'expérience qui a bien roulé sa bosse en MLS, qui connaît le sujet par cœur. Et c'est vrai que si on regarde un peu dans les détails, on voit que c'est différent. Et comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui ont moins de 25 ans, qui sont encore assez jeunes, et même qui ont moins de 30 ans. Donc ça reste une équipe finalement qui voilà est assez jeune. Mais Je pense que c'est aussi l'ADN de cette équipe-là, d'avoir, de, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain ou qui composent cette équipe, de jouer comme une équipe expérimentée, parce que voilà, c'est une équipe qui, on le sait, maîtrise son sujet, elle a l'habitude de plutôt mettre la main sur les matchs et ensuite maîtriser l'adversaire. Et donc, je pense que peu importe les joueurs qui sont en place, c'est toujours cette manière-là de faire et de jouer qui est proposée par Seattle. Et c'est, je pense, ce qui donne cette impression-là.
Ouais, effectivement, tu as complètement raison. Mais restons avec toi un peu, Raphaël. J'aimerais qu'on parle un peu du jeu du FC Dallas. Écoute, on a vu ce match-là ici. On ne savait pas trop à quoi s'attendre du FC Dallas. J'ai vu plusieurs matchs du FC Dallas cette année. Sauf qu'on sent qu'enfin, cette année, on voit la patte de Lucci Gonzalez. Vraiment la patte. On voit un jeu en une touche, des jeux en triangle de la part de Dallas. C'est quand même assez fluide. Ça va vite. On sent qu'il y a un collectif qui est bien en place. Pourtant, sur le terrain, tu as deux des joueurs désignés de Dallas qui n'étaient même pas dans le 11 de départ, mais on sent quand même une équipe bien soudée malgré ce petit manque de talent individuel, il faut dire, même s'il y a du talent quand même, bien évidemment. Donc, est-ce que pour toi, la patte Lucci Gonzalez se fait vraiment sentir cette année en 2020 du côté du FC Dallas, Raphaël?
Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment pour moi une équipe qui a été un peu la révélation parce que je ne les attendais pas. Je ne les attendais pas à ce niveau-là. Je ne pensais pas que cette équipe arriverait à ce niveau-là en play-off. Donc, c'est un peu décevant, entre guillemets, qu'ils se fassent éliminer parce qu'on aurait aimé les voir un peu plus. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux d'avenir dans cette équipe qui pourraient revenir les années suivantes et s'imposer en MLS. Donc, on avait envie de les voir un peu plus longtemps peut-être. Enfin, en tout cas, moi, j'avais cette envie-là. Et effectivement, c'est une équipe qui joue un très beau football, qui est assez intéressante. Même cette saison, avant les playoffs, qui s'en est plutôt bien sortie, qui a eu un peu de mal jusqu'à septembre, mais ensuite qui a plutôt déroulé son football, qui a fait de bons résultats et qui a réussi à obtenir une belle place et du coup à venir s'inviter en playoffs et faire de belles prestations. Donc, voilà, je pense que c'est partie remise. C'est une équipe qu'on reverra, je pense, l'année prochaine, avec peut-être encore plus d'expérience entre guillemets, d'expérience commune en tout cas. Et je pense que voilà, ce sera vraiment une équipe à suivre la saison prochaine parce que c'est intéressant de les voir jouer au football et voir comment ces jeunes joueurs vont maintenant évoluer et continuer à progresser ensemble.
Ouais, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Parlons encore de Dallas, mais cette fois-ci avec Antoine. Quelle trouvaille ce milieu de terrain colombien d'Andrés Ricorte, Ricorte, ou comment, je sais pas comment vous voulez prononcer son nom, mais un nom difficile à prononcer. Mais on sent que ce joueur-là au milieu de terrain a ramené beaucoup de talent, que ce soit du talent technique, de la vision de jeu. On a vu à un moment, il a fait un double contact quand même assez intéressant durant ce match-là. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui manque aux autres équipes de la MLS pour trouver ce genre de recrue, Antoine? Est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui manque? Parce qu'il y a des joueurs de talent un peu partout dans le monde. Et est-ce que pour toi, ce joueur-là, c'est une des meilleures recrues, point de vue qualité-prix, que la MLS a eu cette année en 2020?
Oui, il est très bon. C'est marrant, c'est vraiment le type de recrue que toute la MLS veut. Enfin, c'est le Sud-Américain qui est au centre du jeu, quoi. C'est le De Hero, le. Enfin, il y en a plein, mais j'ai trouvé. Mais ouais, le De Hero, Almiron, c'est.
Reynoso.
Reynoso, exactement. Exactement. Mais c'est vraiment le joueur que toutes les équipes cherchent plus ou moins. Enfin, Piatti était un petit peu ça aussi, Valérie, même s'il joue plus sur l'aile, mais. Je pense que oui, c'est un peu le succès pour une équipe d'MLS d'avoir un joueur désigné comme ça qui peut contrôler le ballon au centre du jeu. Et en face de lui, bah, le De Hero, c'est vraiment l'exemple parfait de ça. Par contre, le problème avec Dallas, c'est que Ricorte, il est un petit peu en train de prendre du temps de jeu par rapport à Jesus Ferreira, qui a montré de très bonnes choses. Et j'espère que ça va pas trop le bloquer pour la saison prochaine. Et en parlant de joueur désigné, je voulais juste dire, je trouve, enfin, moi, le truc qui m'a un peu choqué contre Seattle, c'était que Jara, je le trouve vraiment pas très bon. Franco Jara, et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas fait jouer Ricardo Pepi, surtout qu'il n'était pas très bon Jara au tour précédent aussi contre Portland. Donc il y avait un choix un peu étrange, je trouve, de laisser Ricardo Pepi sur le banc, même s'il est très jeune. Je pense qu'il aurait pu apporter un petit peu de profondeur en haut,
Mais en tout cas, ouais, une équipe très sympa. Dallas a à devoir la saison prochaine. Il faut qu'il fasse gaffe parce que Reynolds risque de partir. Apparemment, il est pisté par la Juve et d'autres clubs européens. Et ça ne m'étonnerait pas de voir un autre. Donc, il va falloir qu'il, comme Ferreira, il va falloir qu'il se prépare à recruter peut-être derrière.
Ouais, effectivement, il y a beaucoup de très bons joueurs. On sait que c'est une des meilleures académies de la MLS, si ce n'est la meilleure, en tout cas, cette équipe du FC Dallas. Mais parlons, Antoine, de ton équipe, les Seattle Sounders. On va parler un peu de cette équipe-là parce que on a vu, en fait, dans ce match-là, deux équipes qui avaient une très très bonne défense, en tout cas dans ce match-là. Mais Seattle en a fait un peu sa marque de commerce, la défense de Seattle, avec bien évidemment beaucoup de qualité devant. Mais on voit quand même une défense très 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 solide. On était habitué au Chad Marshall, au Roman Torres. Au début de l'année, on a essayé la paire Gomez-Arriagav, ça n'a pas trop marché. Mais là, on semble avoir trouvé la bonne formule avec Shane O'Neill et Gomez, Yemar Gomez Andrade. Est-ce que pour toi, cette charnière-là peut arriver à un moment donné au niveau de la charnière, la magnifique charnière Marshall Torres, Antoine?
Enfin, c'est marrant, il y avait Steve Zakuani sur un podcast, un ancien joueur de Seattle, qui disait que c'était sur le papier, c'était pas du tout la meilleure équipe que Seattle ait eue ces 5 dernières années. Il y en a eu des meilleures, notamment à l'époque de Dempsey, etc. Mais en fait, en termes de physionomie, finalement, cette saison, c'est peut-être une des meilleures équipes qu'a eu Seattle, parce qu'elles jouent trop bien ensemble, même si les joueurs sont pas forcément des tauliers à chaque poste. Et Shane O'Neill, c'est vraiment ça. C'est un mec qui s'est trimballé en Europe et qui a eu du mal pendant plusieurs saisons avant de revenir à Orlando, de ne pas être gardé, d'enchaîner un petit peu. Et Seattle l'a pris vraiment comme troisième ou quatrième couteau. Et finalement, il est là et il fait vraiment du bien à cette équipe de Seattle à côté de Gomez, qui est vraiment Andrade Gomez. C'est une superbe recrue. Tout comme João Paulo au numéro 6. J'aime beaucoup Gustav Svensson, mais cette année, João Paulo l'a poussé un petit peu sur le banc ou alors l'a mis à ses côtés. Mais João Paulo, c'est vraiment le successeur de Alonso, juste devant cette défense centrale. João Paulo fait un boulot de dingue et je pense que c'est aussi pour ça que la défense de Seattle est très bonne. Et aussi, il y a une profondeur de banc qui est dingue, notamment sur les ailes. Hein. On l'a vu là, c'est Tolo et Alex Roldan qui étaient titulaires, mais tu peux sortir du banc. Bah, tu parlais de Gomez ou de Torres qui est revenu, mais il y a aussi
Brad Smith.
Brad Smith, c'est ça. Et puis Kevin Lerdam qui n'était même pas titulaire là, parce que c'est autre chose à mentionner, mais les frères Roldan sont incroyables. Christian Roldan, on connaissait bien pour sa capacité à couvrir vraiment tout le terrain. Il a trois poumons, je pense, il est
Ouais.
vraiment partout. Mais Alex Roldan, c'était un mec qu'on a récupéré en draft, au deuxième tour de draft, donc le frère de Christian, il y a quelques années, qui avait galéré. L'année dernière, il était même plus dans l'équipe à la fin de la saison. Son contrat n'avait pas été étendu. Il est revenu comme essayiste, donc il a dû refaire des essais, ce qui est un peu quand même humiliant pour voilà, le frère d'un titulaire de Seattle. Et finalement, là, en tant qu'arrière droit, il gère et il pousse même un petit peu Lerdam sur le banc. Donc c'est sympa de le voir un petit peu reprendre un peu de rôle et de donner de la profondeur de banc à cette équipe de Seattle.
Ouais, c'est sûr que c'est quand même intéressant. Il faut dire que Brian Schmetzer a le talent de trouver un poste à chacun de ses joueurs et de les faire briller. Parlons un peu de ce match-là avec Raphaël. Raphaël, le match s'est décidé, comme sur tous les matchs où c'est quand même difficile de se créer des occasions. Il y en a eu des occasions, mais beaucoup de tirs bloqués, deux défenses bien en place. Puis finalement, ça s'est décidé sur un coup de pied arrêté avec un corner qui est transformé par Shane O'Neill. Un peu le bleu, je vais l'appeler le bleu Shane O'Neill. Pourquoi le bleu Shane O'Neill? Parce que c'est quand même un joueur qui est un peu arrivé un peu dans l'anonymat le plus complet, même s'il est formé au Rapids, il a joué au Rapids, il est parti un peu en Europe, à droite et à gauche, en Angleterre, à Chypre et ainsi de suite. Et après, il s'est retrouvé à Orlando. Il a été assez décevant à Orlando. Puis il arrive un peu à la surprise générale à Seattle. Et maintenant, non seulement il est titulaire, mais en plus, il marque ce but-là pour qualifier l'équipe en finale de conférence Ouest. C'est son troisième but de sa carrière professionnelle sur plus de 110 matchs. Troisième but seulement de sa carrière. Est-ce que pour toi, Raphaël, ce Shane O'Neill, c'est un peu la représentation de ce qu'est capable de faire un entraîneur comme Brian Schmetzer?
Oui, c'est sûr que c'est Shane O'Neill, c'est une surprise aussi. On s'attendait pas. enfin, quand il est arrivé, je ne m'attendais clairement pas à le voir à ce niveau-là, parce que c'est un joueur qui a vagabondé un peu partout en Europe, comme tu l'as dit. À Orlando, il était plutôt décevant, et du coup, bon, il arrive sur la pointe des pieds, entre guillemets, à Seattle, et c'est vrai que c'est compliqué de s'imposer dans une équipe quand même qui est une des équipes majeures de la MLS. Et finalement, petit à petit, il a fait son trou et il a réussi à grappiller du temps de jeu en étant intéressant. Et effectivement, c'est un super travail de Brian Schmetzer d'avoir réussi à le faire revenir entre guillemets au football, parce que c'est un joueur qui a su montrer toute son importance. Il a marqué le but, mais il a fait aussi un très bon travail défensivement tout au long du match. On a vu que Dallas avait beaucoup tenté quand même, mais sans jamais vraiment cadrer une frappe. Je crois qu'ils n'ont même pas cadré une frappe finalement, à part la seule action, à part celle où c'était contré juste après le poteau. Mais sinon, voilà, c'était un match plutôt sérieux. Et je pense que c'est un joueur qui a été un peu voilà, façonné par Brian Schmetzer cette saison, et qui maintenant trouve en tout cas un bon niveau au point du football.
Ouais, effectivement, tu as raison, il n'y a eu aucun tir cadré de la part de Dallas, mais il faut dire par contre, Antoine, qu'il y a eu quand même un poteau de Michael Barrios. Écoute, dans la plupart des équipes à travers le monde, ce genre de construction et de combinaison amène un but. Michael Barrios est un peu malchanceux parce que sa frappe touche le poteau. Mais après, ça revient à Andrés Ricorte, bloqué par Gomez, tu l'as mentionné un peu plus tôt. Et à la fin du match, on voit Lirdam qui manque un peu aussi une chance un peu inespérée. Il est seul devant le but, tout ouvert, puis il la met au-dessus. Est-ce que pour toi, cette victoire, Antoine, est 100% méritée pour Seattle? Ou est-ce que tu penses que si jamais Dallas l'avait remporté, t'aurais pas été étonné non plus?
Je pense que Seattle était quand même plus avantagé pendant toute la rencontre. Mais c'est vrai que oui, il y a eu ce poteau qui était une occasion très dangereuse pour Dallas. Et Dallas aurait pu arracher comme ça une victoire un peu à l'arrache. Ça m'aurait pas trop surpris non plus. Mais ça montre qu'il y a, malgré, on parlait de la défense centrale qui est plutôt bonne, comme les arrières latéraux aiment beaucoup monter à Seattle. Ça montre qu'il y a vraiment des trous dans la défense. Je pense que ça sera aussi le cas, enfin, on parlera de la finale plus tard, mais ça sera aussi le cas à Minnesota, qui a une défense un peu lente. Et donc, ça va être ça. Enfin, en finale, il va falloir faire très attention, mais je pense qu'il risque d'y avoir des buts des deux côtés. Et il faut que Seattle travaille un petit peu cette stabilité défensive.
Exactement, il va falloir. En tout cas, c'était un match assez intéressant pour les puristes, on va dire. Si jamais vous aimez voir un peu le côté tactique des choses, c'était vraiment très tactique comme match. Finalement, écoutez, il y avait des occasions, mais rien de très très franc avant ce but de la part de Seattle. Et on a parlé un peu de l'action du côté de Dallas avec le poteau. Donc voilà, victoire de Seattle, des Sounders de Seattle 1-0 face au FC Dallas. Les Sounders sont les premiers finalistes de la conférence Ouest et ils vont avoir leur prochain match face à Minnesota United. Minnesota United qui s'est imposé sur le terrain de Sporting Kansas City sur le score de 3-0. Par contre, Raphaël, quand on regarde ce score-là, on se dit Minnesota a dominé. Sauf que si jamais on voit le match, on remarque qu'en fait, c'était vraiment pas le cas, en tout cas en début de match, n'est-ce pas, Raphaël?
Oui, c'est un début de match qui vraiment laissait croire plutôt que Kansas allait s'imposer, et parce qu'ils ont énormément poussé les 30 premières minutes jusqu'au premier but en fait, et ils ont vraiment beaucoup poussé et ils étaient pas loin de marquer à plusieurs reprises, et derrière on a vu voilà que sur des actions un peu de type contre-attaque, mais en tout cas des actions bien construites de la part de Minnesota, ils ont réussi à marquer le premier but. Très peu de temps après, ils ont marqué un deuxième but sur une action collective que je trouvais vraiment intéressante, avec un enchaînement de passes et surtout une très belle passe décisive de Reynoso une fois encore. Il en a fait trois dans ce match, donc c'est pas compliqué. C'était vraiment l'homme à suivre ce soir-là. Et encore une fois, 4 minutes après, le troisième but qui vraiment met un coup de massue et assomme, je pense, les volontés offensives du Sporting Kansas, parce que Ils ont vraiment tenté les 30 premières minutes de faire du jeu, et derrière ils sont vraiment punir en un peu plus de 10 minutes, ils se font punir sur ces trois buts là, et derrière en deuxième mi-temps voilà, quand Minnesota a géré son avance, Kansas a tenté quand même, mais Voilà, c'est toujours compliqué une fois qu'on a 3 buts de retard de pouvoir revenir.
Ouais, c'est sûr, c'est extrêmement difficile. Antoine, tu regardes un peu cette demi-finale-là. Je suis sûr que tu l'as regardée d'un œil assez curieux, vu que c'est le gagnant à affronter ton équipe des Sounders de Seattle. Tu vois un peu cette prestation de la part de Minnesota United. Qu'est-ce que tu retires en fait de ce match-là, si jamais on tombe? On va en parler plus tard du match de Seattle, mais pour toi, qu'est-ce qui t'a impressionné dans ce match-là? Parce qu'il y a plusieurs points positifs du côté de Minnesota, mais il y a quelques points un peu négatifs aussi, parce que les premières 16 minutes, on dit Minnesota aurait très bien pu prendre l'eau et encaisser 2 ou 3 buts, non?
Oui, c'est clair. Franchement, Kansas City, la première mi-temps, ils dominent vraiment. Je suis d'ailleurs très étonné, parce que Pulido n'était pas là. Et ils ont quand même réussi à bien mettre la pression avec Kari Shelton, qui a fait un plutôt bon match, et surtout Johnny Russell, qui est vraiment un excellent ailier. Et donc, une des leçons un peu à tirer de ce match, c'est que Minnesota a un vrai gardien, Dane Sinclair, le jeune Canadien. On voit qu'il est toujours un petit peu explosif et doit peut-être améliorer un peu son jeu au pied, mais sur sa ligne, il a fait 2 arrêts, mais essentiels pour Minnesota en première mi-temps. Et par contre, on voit qu'il y a quand même beaucoup de place pour dans la défense centrale. Il y a quand même des espaces assez impressionnants du côté de Minnesota. Je pense qu'ils vont devoir faire très attention contre Seattle et ça sera un de leurs points faibles. Il y a aussi Ozzie Alonso qui, lui, a quand même. Il est toujours très fort, mais on voit quand même qu'il vieillit un petit peu et en plus, il a été longtemps blessé cette saison. Donc, je ne pense pas qu'il soit encore à 100%. Donc, voilà, la défense centrale, à mon avis, est top du côté de Minnesota. Heureusement, ils ont un bon gardien. Et il leur manque toujours un numéro 9. Là, heureusement, Molino et Reynoso ont fait le show. Mais Robin Lott ou Kay Camara ne sont pas très convaincants. Lott, ce n'est même pas sa position initiale, mais je pense qu'il faudrait qu'il se renforce l'année prochaine à ce poste. Mais voilà, ouais, il y a des espaces en défense centrale et Seattle pourra jouer là-dessus.
Ouais, effectivement, il y a beaucoup d'espace et une défense centrale. Tu as parlé un peu de la défense centrale, tu as parlé aussi du milieu défensif. C'est que des trentenaires. Hein. On a Michael Boxall à 32 ans, Bakay Dibassi, l'ancien de la Ligue 1, à 31 ans. Puis, en tant que milieu défensif, Osvaldo Alonso à 35 ans. Est-ce que pour toi, Raphaël, avoir ce genre d'expérience, ce genre de joueur âgé au-dessus de 30 ans, est-ce que c'est un plus en termes d'expérience est-ce que c'est un moins en termes de, malheureusement, de fraîcheur physique, il faut dire. Pour toi, quand tu regardes un peu ce genre de charnière centrale avec un milieu défensif de cet âge-là, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, habituellement, je serais tenté de dire que c'est quand même un plus d'avoir ce type de joueur-là, d'avoir de l'expérience, surtout sur des matchs comme ça, à élimination directe, de phase finale. On sait que c'est important d'avoir de l'expérience pour calmer le jeu quand il faut, pour savoir quel moment il faut mettre un coup sur l'accélérateur, ce genre de choses. Et c'est vraiment très important d'avoir des joueurs d'expérience pour faire ça. Mais je suis assez étonné, en fait, pour Minnesota, parce que en fait, je trouve que l'expérience, ce n'est pas ce qu'on a forcément vu sur ce match-là. Et au contraire, on a pas vu non plus qu'ils étaient. Enfin, on a surtout vu voilà, leurs difficultés physiques, alors que pourtant, à 3-0, on peut dire que le match était plié. Et finalement, c'est un peu contradictoire de voir ces joueurs-là d'expérience qui n'étaient pas ceux sur lesquels Minnesota a construit sa victoire, puisque les deux, comme disait Antoine, Reynoso et Molino sont vraiment les joueurs qui étaient assis sur ce match-là. Mais c'est vrai que le milieu de terrain derrière Alonso et puis surtout la défense centrale était un peu en peine, même si Dibassi a quand même marqué un but juste avant la mi-temps. Donc bon, c'est toujours bon d'avoir un peu d'expérience, mais je pense que voilà, sur les prochains matchs, ils vont être un peu pointés du doigt par Adrian Heath, qui va vouloir, à mon avis, un peu plus de sérénité, surtout face aux Sounders. On sait qu'il y a une équipe qui maîtrise assez bien le jeu, donc voilà, il ne faut pas tout remettre sur les épaules de Sinclair face aux Sounders, parce que ça pourrait être beaucoup plus cher que face au Sporting Kansas City.
Exactement, c'est vrai qu'ils ont repris quand même du poil de la bête après ces 16 premières minutes calamiteuses du côté de la défense et de la charnière centrale. Écoute, je trouvais que plus le match avançait, plus Alonso était de loin de mieux en mieux en fait. Il a bloqué 2-3 tirs quand même assez intéressants en deuxième mi-temps. Ça a quand même été quelqu'un, on voyait sa grinta, on voyait un peu son apport et son expérience qu'il apportait au milieu de terrain qui est quand même assez intéressante. Vous avez parlé de la sensation. Un peu la surprise de ce milieu de saison, à partir du milieu de saison en MLS de Dane Sinclair, qui a fait quelques arrêts déterminants. On sait que c'est un joueur canadien, mais aussi trinidadien. Donc, il pourrait peut-être choisir d'aller représenter le Trinidad de Tobago. C'est quelque chose peut-être d'intéressant à ce moment-là, sachant qu'il y a quand même beaucoup de joueurs du côté de la sélection canadienne. Mais Dane Sinclair, c'est bizarre parce que notre spécialiste du côté de la USL League One, Nathalie, que vous connaissez tous ici sur Culture Soccer, il ne trouvait pas très bon. Il n'a pas fait une bonne saison du côté de forward de Madison en USL League One l'année passée. Comment on peut expliquer ça, Antoine, de passer d'un joueur un peu médiocre en troisième division à un joueur dominant en première division?
Comme il est assez jeune, on peut peut-être expliquer ça par l'inexpérience et les problèmes peut-être du forward en défense centrale aussi, qui le mettait plus ou moins à l'abri de certaines actions. Peut-être qu'il y a le profil des défenseurs centraux qui sont différents. J'avoue ne pas connaître vraiment le profil, ne pas avoir regardé beaucoup de matchs du forward avec Sinclair, mais c'était pareil du côté. Il était à San Antonio cette année avant d'être rappelé par Minnesota en urgence avec avec la blessure de Tyler Miller. Et apparemment, San Antonio était plutôt content de ses performances. Donc je pense que ça dépend du style de jeu de l'équipe, mais j'ignorais qu'il était trinidadien, pour être honnête. Je pensais qu'il était canadien et que ça pouvait être une bonne heure. On va dire un concurrent sérieux à Crépeau une fois que Borjan commence un petit peu à prendre sa retraite. Mais en fait, ouais, il pourrait peut-être partir au Trinidad, ce serait quand même dommage pour le Canada.
Voilà, ce serait vraiment dommage en tout cas, mais bon, il y a de la qualité aussi à ce poste-là du côté du Canada. Passons après finalement, bon écoutez, on va arrêter de tourner autour du pot parce qu'on tourne autour du pot depuis très longtemps. Emmanuel Reynoso, 3 passes décisives dans ce match-là. Ce joueur-là a transformé cette équipe de Minnesota United depuis qu'il est venu durant le mercato, on va l'appeler estival, même si ce n'était pas vraiment estival cette année-là. Est-ce que pour vous, ce genre de joueur-là, c'est le joueur vraiment au-dessus? Est-ce que pour vous, ce genre de joueur-là, c'est le prochain Nicolas Oladipo, par exemple, en parlant de Oladipo? Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment un feu de paille, puis finalement, il va retomber sur terre? Je te laisse commencer, Raphaël, parce que je sais qu'Antoine a une opinion beaucoup plus tranchée. Donc, je te laisse commencer, Raphaël.
Bah, c'est vrai qu'il faut toujours faut faire attention avec ce genre de joueurs qui sont au-dessus du lot comme ça sur une saison. Mais j'ai envie de croire que Reynoso, c'est un joueur qui peut durer. C'est un joueur qui a 25 ans, donc qui est en théorie dans la force de l'âge aujourd'hui. Voilà, il est censé ne plus traîner cette erreur de jeunesse et il est censé non plus voilà, ne pas être fatigué par son âge. Donc il est censé voilà, être parfait maintenant dans la force de l'âge, et c'est un joueur qui normalement devrait avoir atteint son pic et ne pas descendre tout de suite. Donc pour moi, c'est un joueur qui est important, qui est vraiment le genre de joueur qui peut te faire gagner un match quand tu es en difficulté, qui peut te sortir des passes décisives magnifiques, des louches, servir les attaquants sur des plateaux. Mais faut faire attention encore une fois avec ce genre de joueur, parce qu'on en a vu beaucoup, des joueurs qui voilà, ont brillé sur une saison et qui l'année d'après ont disparu. Mais moi, je pense honnêtement que ce joueur-là va s'imposer. C'était un joueur aussi qui était plutôt correct avec Boca Junior, qui a sorti son épingle du jeu. Alors, je ne regarde pas les matchs de Boca, mais de ce que j'ai pu entendre à son arrivée, c'était un joueur qui jouait très bien dans la première division argentine, qui a fait pas mal de bons par contre sur sa fin. Et c'est un peu pour la raison pour laquelle il est ensuite allé à Minnesota, mais en tout cas, c'est, je pense, un joueur qui voilà, est important pour cette équipe-là et qui devrait, à mon avis, continuer sur cette lancée.
Antoine?
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il est ce que Quintero, enfin ce qu'il voulait que Quintero soit. C'est Quintero, malgré tout son talent et en tant que meneur de jeu, n'avait pas forcément le mental qu'il fallait. Et Emmanuel Reynoso, on l'a vu, franchement, déjà, enfin, c'est un coup énorme, je trouve, de la part de Minnesota de l'avoir pris. Et il a montré qu'il était là lors des grands matchs comme celui-là. Et en plus, il marche bien avec Molino. Enfin, franchement, il manque juste un bon neuf devant. Je suis assez étonné que Camara ne marche pas, mais c'est un joueur comme tu l'as dit, comme enfin. Ce qu'ils veulent que l'Odier, peut-être un l'Odiero, tu vois, l'Odiero, ça fait 5 ans qu'il est là. Je pense que c'est un des meilleurs 10 de la Ligue depuis 5 ans et on dirait qu'il vieillit pas. Je pense que si Reynoso, il reste 5 ans, sachant qu'il y a 25 ans, c'est peut-être pas l'idée, on n'a pas l'idée, à mon avis, de le vendre en Europe pour deux fois plus cher, parce qu'il a passé un petit peu à l'âge où tu le vends à 10-15 millions en Europe. Mais enfin, franchement, Minnesota, si on allait chercher un mec titulaire à Boca, en plus, un meneur de jeu, c'est un excellent travail de recrutement et je pense qu'il sera là pendant longtemps si ça continue comme ça.
Ah, très sincèrement, je suis étonné. Pour moi, je pense que c'est un joueur qui va se vendre pour 15 millions en Europe. Parce que 25 ans, c'est pas vieux non plus. Et puis je pense qu'à 26 ans, 15 millions, ça se fait. Après, oui, c'est pas le joueur qui a 19 ans et qui va avoir tout son potentiel, mais je suis sûr qu'une équipe mettrait 10-15 millions pour acheter Reynoso. En tout cas, intéressant. On ne peut pas spéculer sur ce que les équipes mettraient, mais je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est possible. Donc
Ouais,
voilà.
juste pour ce sujet, enfin, très rapidement, mais je vois qu'ils ont déjà du mal à mettre 10-15 millions sur Diego Rossi, qui est quand même plus jeune. Et je pense que la MLS, le problème, c'est que les agents et les clubs ne croient pas vraiment que les défenses soient bonnes. Donc les joueurs offensifs, c'est assez dur de les juger. Et vu qu'ils ont du mal à mettre ces 10-15 millions sur Diego Rossi, je pense qu'un mec de 25 ans, ce sera un peu plus compliqué. Donc perso, moi je pense que Minnesota est allé chercher pour le long terme. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'ils sont pas allés dans l'idée de le revendre plus
Ah
tard. En tout
oui,
cas, c'était pas l'idée initiale.
non, je pense pas que c'est
Après, il faut
l'idée
faire attention
initiale.
aussi aux équipes du golf.
Ouais,
Ouais,
pour un
ouais.
petit
Qui,
Marseille, vrai.
elles, peuvent mettre beaucoup d'argent sur un joueur de ce type-là, comme ils l'ont fait avec Pity Martinez, qui pourtant n'était pas très en vue du côté d'Atlanta. Et donc, Reynoso, c'est tout à fait le genre de joueur qui pourrait terminer là-bas si jamais il recevait une grosse offre.
Ouais, effectivement, effectivement. En tout cas, on verra ce qui va se passer. En tout cas, il est là maintenant à Minnesota, puis il nous régale, puis on est très content de voir ça. Passons à cette. On va présenter un peu ça, vu qu'on est en plein dans le sujet. On va présenter un peu cette finale de l'Ouest entre les Seattle Sounders et Minnesota United. Une finale qui va se jouer à Seattle même, bien évidemment. Ça va être un gros, gros match, un vraiment gros, gros match entre deux équipes quand même assez intéressantes. On a deux équipes quand même qui sont très très bonnes sur le papier. Oui, il y a l'expérience de Seattle, mais il y a l'explosivité aussi du côté de Minnesota. J'aimerais qu'on en parle un peu et aussi d'un autre côté, on en a parlé un peu plus tôt. C'est un peu le duel Reynoso-Lodeiro pour moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comment tu vois un peu cette finale, toi, Raphaël?
Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que la forme de Reynoso et Lodeiro va sûrement changer beaucoup de choses dans ce match-là. C'est deux équipes qui sont assez différentes. Je trouve que voilà, Seattle, c'est vraiment l'expérience, l'équipe, comme je disais, qui a bien roulé sa bosse en MLS, qui connaît son sujet, qui maîtrise. Et de l'autre côté, on a cette équipe-là de Minnesota qui, je trouve, apporte de la fraîcheur, qui a un peu de fougue. Donc, la fougue, on sait que ça peut être vraiment excitant quand il y a des belles attaques, des beaux enchaînements offensifs, mais ça peut être aussi inquiétant dans des phases où on doit défendre. Donc, c'est vraiment un match qui va être intéressant et je pense que voilà, c'est le genre de match qu'on aime voir parce qu'on sait pas, on peut pas prédire exactement le score avant. On peut donner des tendances, mais sans avoir vraiment de certitude. Donc, moi, je suis vraiment excité et j'ai hâte de voir ce match-là parce que je pense que on peut avoir des surprises et effectivement, comme tu disais, ça va sûrement venir de Reynoso pour Minnesota ou de Lodeiro pour les Sounders.
Parfait, Antoine, est-ce que c'est un match qui te fait un peu peur ou est-ce que c'est un match que tu penses, parce que souvent quand tu parles de Seattle, des fois tu sens que ça va être assez simple. Est-ce que dans ce match-là, tu penses que le résultat est écrit d'avance?
J'avoue que j'ai du mal à voir Minnesota gagner. Juste, Seattle est tellement une machine en playoff, c'est assez impressionnant. Et comme on l'a vu, même dans les matchs compliqués, ils s'en sortent avec de la chance en fait. Et j'ai vraiment du mal à voir cette équipe de Minnesota gagner ce match. Leur défense est vraiment fébrile. Et leur milieu de terrain moins bon que celui de Seattle. Donc, ça va être très compliqué pour Minnesota. J'avoue, je pense que je préfère jouer Minnesota que Kansas City en finale. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'ils vont se faire absolument démonter par Minnesota 3-4-0. Mais je suis plus confiant avec Minnesota que je suis si on devait se battre contre Kansas City, qui est une équipe expérimentée. Et Minnesota, ça va être. Va falloir bloquer Reynoso, mais je. Voilà, il y a Reynoso et Miolino marchent très bien, mais Finlay et Lodd ne sont pas forcément des menaces incroyables. Côté Seattle, on a vraiment trois joueurs qui peuvent faire la différence devant. Donc je suis plus confiant, ouais, plutôt par rapport à ce match.
Bah écoute, on va se mouiller un peu comme on dit. Je vais vous demander vos prédictions pour ce match-là, un score pour ce match-là. Je te laisse commencer Antoine, vu que je pense que tu es celui qui hésite le moins, hein, parmi nous trois.
Ouais, je dirais 3-1 ou 4-2. Je pense qu'il va y avoir pas mal de buts, vu les deux défenses un petit peu fébriles. Donc voilà, 3-1 pour Seattle, bien sûr.
Et toi, Raphaël?
Alors moi, je dirais beaucoup de buts aussi, mais je dirais ouais, plutôt 3-2 pour Seattle quand même, pour l'expérience. Mais je pense que ce sera un match où il y aura des buts, effectivement. Donc je vois bien un 3-2.
Bah écoutez, moi je suis très intéressé dans ce match-là. Pour avoir vu beaucoup de matchs des deux équipes, je sais pas, je suis très 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 indécis. Juste pour la forme, je vais prendre Minnesota et je vais dire 2-1 pour Minnesota, juste pour contrebalancer vos avis à vous. Passons à la deuxième finale, la finale de l'Est. La finale de l'Est, bon, déjà en premier, laissez-moi présenter la finale de l'Ouest. Ça va se jouer lundi soir, heure du Québec à 9h30 le soir, heure française à 3h30 du matin mardi, donc la nuit de lundi à mardi. Ça c'est pour l'Ouest. On va passer à l'Est. Une finale un peu, on va dire, en parenthèse ou en guillemets, inattendue entre le Crew de Columbus et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Deux, parlé la semaine passée, deux équipes qui ont quand même, ils n'ont pas vraiment étonné lors de leur demi-finale de conférence. Ils sont passés, je ne vais pas dire facilement parce que ce n'était pas facile, mais sur la physionomie du match, c'était vraiment les deux équipes un peu au-dessus. Vous pouvez un peu me donner un peu votre avis sur ces deux équipes-là. Je commence par Antoine cette fois-ci.
Ouais, les Reds, c'est une équipe vraiment qui est montée en puissance pendant toutes les playoffs et qui me surprend énormément parce que je pensais que c'était vraiment une équipe qui était enfin juste en gros forte grâce à Bou et Kalesril. Et en fait, non, c'est un collectif qui marche plutôt bien. Bruce Arena fait un travail assez incroyable pour en tirer le meilleur de Bukcha, de Scott Caldwell, de Kessler, de Buchanan, qui fait des playoffs assez impressionnantes aussi, qui pourrait être le facteur X justement contre Columbus. Et Matt Turner, bien entendu, le gardien qui fait une très belle saison. Ouais, non, les Revs, c'est un peu le candidat surprise de ces playoffs, mais qui marche très très bien. Et de l'autre côté, Columbus, c'est quelqu'un qu'on attendait cette saison vraiment dans le top de l'Est. C'est une équipe qui avait fait un mercato excellent. Et on s'attendait quand même pas mal à ce qu'il soit jusqu'ici. Après, l'avantage qu'a, je trouve, Columbus, c'est qu'ils ont des joueurs un peu plus expérimentés dans ce qui est des playoffs et ils ont en fait, un collectif qui prône sur les individualités, ce qui peut faire que la solution peut venir un peu de partout, même si les Revs arrivent un peu à gérer Nagbe ou arrivent à gérer Zardes, finalement, tu as quand même Zilar Ayan ou Pedro Santos derrière. Le match va se jouer vraiment au milieu de terrain pour moi, parce que ça va être très compliqué pour les Revs d'arrêter justement le milieu de terrain de Columbus qui est excellent avec Zilar Ayan et Nagbe. C'est un peu ce qui fait la force de Columbus. Ouais, ça va être très compliqué pour les Revs de s'imposer sur ce côté-là du terrain. Y a, ouais, parce qu'il y a du talent du côté de Columbus. Bon, j'avais pas parlé d'Arthur aussi, mais oui, Arthur. Ouais, donc c'est ça vraiment le gros duel, je pense, se fera au niveau du milieu de terrain dans ce match.
En tout cas, le milieu de terrain, tu en as parlé dans ton dernier article sur Culture Soccer, un article sur Darlington Nagbe, très 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 important dans ce collectif du Columbus, de Columbus, très intéressant à aller lire pour ceux qui l'ont pas encore fait. Raphaël, pour toi, est-ce que ces deux équipes-là aussi, est-ce que tu penses que ça va être un match soulevé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impressionné chez ces deux équipes-là? Donne-moi ton avis.
Bah, moi, je suis déjà impressionné par le travail de Bruce Arena avec les Reds parce que ça montre vraiment que ce mec-là, c'est Monsieur Playoff. On connaît déjà tous ses succès du passé avec le DC United et avec le Galaxy, ses 5 MLS Cup. mais c'est vraiment un entraîneur qui arrive en play-off à transcender son équipe et qui, voilà, je pense qu'il est, enfin, je serais curieux, j'ai pas le chiffre en tête, mais je serais curieux de savoir son taux de victoire en play-off. Ça doit être assez impressionnant parce que c'est un entraîneur qui, voilà, arrive dans les play-offs avec une équipe qui n'est pas forcément favorite cette saison-là et qui, voilà, arrive à enchaîner les matchs, élimine l'Impact, élimine Philadelphie qui était pourtant le vainqueur du community
du supporter shield,
du supporter shield, pardon, j'avais le community shield en tête, du supporter shield. Donc ouais, c'est vraiment un entraîneur qui fait du très très bon travail et qui arrive à transcender ses joueurs quand il le faut. Donc déjà, ça, c'est vraiment pour moi très impressionnant. Et d'autre côté, on a le Crew, qui est une équipe pour moi qui est vraiment revenue de très loin, qui, on sait, a failli déménager, qui a eu quelques petites perturbations récemment dans son histoire, et qui finalement aujourd'hui est là encore une fois avec une équipe intéressante. C'est pour moi, c'est une équipe qui est un peu on peut dire très MLS, si on me demande une équipe de MLS type, je pourrais citer le Crew parce que on a des joueurs qui connaissent très bien la compétition. On peut parler de Zardes, on peut parler de Nagby, mais pour moi, voilà, c'est une équipe qui sent la MLS, qui reflète vraiment ce qu'est ce championnat, et avec des joueurs d'expérience. Donc ça va être vraiment un match intéressant, serré, et je ne serais pas étonné que ça aille en prolongation, parce que je pense que ça va être assez serré.
Ouais, effectivement, ça va être extrêmement serré. Bon, je te laisse commencer par ta prédiction. Tu as dit prolongation après un score de... quel est ton score final? Si jamais ça va en pénalty, qui va l'emporter? Bref, ton avis là-dessus.
Alors, pour moi, je dirais 1-1 au bout de 90 minutes. Et ensuite, les Revs qui marquent en prolongation. Donc, 2-1 à fin de prolongation, wow, pour les Revs. Okay,
très précis. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu en penses de ce match-là?
Ouais, je sais vraiment pas, j'allais dire un peu comme Raphaël, en vrai, je pense que Columbus est la meilleure équipe sur le papier, mais qu'ils vont finir par avoir Bruce Arena comme tout le monde. En plus, si les Reds gagnent, ça se jouera à Seattle, donc ce sera, enfin, si Seattle passe aussi, mais ce sera une bonne raison pour être pour les Reds. Ouais, je pense aussi que ça va être un partout, et puis je dirais les Reds au penalty qui l'emportent.
Bah, sur ce point-là aussi, je vais être contre vous. Moi, pour moi, c'est Columbus qui va passer. Et je pense que ça va être une victoire de 3-1 de Columbus. Cette équipe-là m'impressionne. Je trouve que le New England, c'est très beau. C'est très, très fort et ainsi de suite. Sauf que j'aime le collectif de Columbus. Et si vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui privilégie le collectif au talent individuel. Et du côté de New England, je trouve que ça se repose trop sur le talent individuel de Carlos Gill et de Tajan Buchanan dernièrement, qui a été déterminant, ou bien de Gustavo Bou. Puis moi, je suis quelqu'un qui préfère ce jeu collectif-là. Donc, bref, finalement, comme on dit, c'est des prédictions, on s'amuse, c'est rien de couler dans du béton, comme on dit. Donc voilà pour ces finales de conférences, donc deux finales très intéressantes. Pour cette finale-là, entre Columbus et New England, bah, c'est demain. Demain, le dimanche 6 décembre, et c'est un match au Québec qui va se jouer à 3h l'après-midi. Pour ce qui est des Français, bah, vous allez pouvoir voir ça quand même assez tôt, parce que c'est à 9h le soir, donc vous pouvez toujours voir ce match-là, un match très palpitant, je vous le conseille. Passons maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités en MLS et en soccer nord-américain. Je veux qu'on parle un peu de ces jobs qui sont ouvertes pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraîneurs réputés, des postes de rêve pour beaucoup d'entraîneurs. On a 4 gros clubs, et je vais expliquer pourquoi je dis gros clubs, je le mets entre guillemets, parce qu'il peut être utilisé de plusieurs façons. 4 gros clubs qui sont à la recherche d'entraîneurs du côté de la MLS. On a Atlanta United. On connaît, ils sont gros parce qu'ils avaient les moyens, ils ont eu les moyens. On se rappelle très bien de leur épopée avec Martinez, Almiron, Villalba et tous ces bons joueurs-là. On a le deuxième gros club qui est DC United. Pour ceux qui ne savent pas, DC United, c'est un énorme club de la MLS. C'est un club qui a remporté 4 MLS Cup, si je me rappelle bien. Donc, c'est quand même un énorme club qui, oui, a eu du mal ces dernières années, mais qui est aussi à la recherche d'un entraîneur, même si l'entraîneur intérimaire, Chad Ashton, a fait quand même du très, très bon travail. Donc, c'est possible que ce soit lui qui reste là. Juste après, on a Toronto FC. Et oui, à la surprise générale, Greg Vanney a présenté sa démission et laisse Toronto FC. Toronto, je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter. Une des meilleures équipes de la MLS sur les 4-5 dernières années avec Seattle Sounders. Donc, aussi de la place là. Et enfin, le mythique LA Galaxy. Le mythique LA Galaxy, et ça fait plaisir à Raphaël. Un énorme club aux moyens illimités presque. Un club qui malheureusement a perdu un peu son identité sur ces quelques dernières années, misant un peu trop sur des joueurs offensifs et oubliant un peu de vraiment recruter en défense et d'amener des joueurs de qualité en défense. Donc, ces gros, gros clubs. Déjà, en premier, j'aimerais avoir votre avis. Qui aurait cru qu'on aurait ces 4 gros clubs sans entraîneur à la fin de l'année? Je ne sais pas. Est-ce qu'un d'entre vous, je laisse commencer celui qui veut, est-ce qu'un d'entre vous avait prévu de voir ces 4 clubs-là sans entraîneur à la fin de cette année-là?
Je vais commencer, je crois, pas du tout. Le seul dans ces 4, il y en a 2 qui étaient peut-être prévisibles, c'était Atlanta et DC. Parce que Ben Olsen avait clairement montré ses limitations et Atlanta, parce que Frank Deboer, de toute façon, ça se voyait que ça n'avait pas duré des années. Mais le LA Galaxy, par rapport à la grandeur de quand même Barros Schelotto, qui est, c'est pas un rookie, hein, c'est un mec qui est arrivé avec un gros bagage, avec des recrues importantes, et que ce soit Toronto aussi, avec Greg Vanney, qui semblait être très très bien dans son job, je pense pas que c'était prévisible de voir ces deux clubs changer d'entraîneur cet hiver.
Ouais, alors moi je suis un peu plus contrasté. Pour moi, à part Toronto, c'est pas vraiment des surprises. C'est sûr que Guillermo Barros Schelotto, c'est un énorme entraîneur. Il a fait ses preuves du côté de Boca, mais on pouvait imaginer que ce serait compliqué cette saison après le départ de Zlatan, qui l'année passée nous a sauvé pas mal de fois quand même sur des matchs importants, qui voilà est un. On le répète, mais c'est un excellent buteur, c'est un joueur de caractère qui est capable de transcender aussi ses coéquipiers. On a eu Chicharito qui est arrivé et pour un tarif quand même assez élevé, un salaire aussi conséquent. Et avec voilà, on a bon après il n'a pas eu non plus l'adaptation idéale parce qu'il y a eu très rapidement le confinement, enfin l'arrêt de la MLS jusqu'au MLS is back, le tournoi MLS is back. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal pour un attaquant, surtout de son âge, pour intégrer une équipe. Mais voilà, on savait que en fait, la forme du LA Galaxy allait dépendre de la forme de Chicharito. Et il n'a pas été en forme cette saison. Donc, c'est plus facile de limoger un entraîneur qu'un joueur. Et en plus, on parle de Chicharito, mais il n'y a pas que lui hein, qui a manqué à l'appel cette saison. Donc effectivement, c'est, je pense la première étape, c'était le limogeage de Guillermo Barros Schelotto et ensuite voir ce qui va se passer après au sein de l'effectif du Galaxy pour essayer de se réinventer, trouver de nouvelles pistes et trouver une autre équipe. Et après, comme disait Antoine, effectivement, pour DC, c'est pas vraiment une surprise. On sentait que Olsen n'était pas non plus en odeur de sainteté du côté de DC ces derniers temps.
Déjà, à Culture Soccer, il n'était pas en odeur de sainteté. Donc oui, je suis d'accord avec toi.
Voilà, et puis bon, après maintenant, on a Chad Ashton, mais qui est en intérim. Donc on ne sait pas trop s'il va dû rester ou pas. Et c'est vrai que les postes d'intérimaire, c'est un peu compliqué à gérer. Et on parlait de Frank Deboer pour Atlanta. Là aussi, c'est un entraîneur qui a un peu sauvé sa peau la saison passée en remontant... En arrivant, il avait très mal commencé et finalement, au cours de la saison, il a réussi à remonter et à sauver sa peau. Cette saison, il était attendu et je pense observé par les dirigeants d'Atlanta. Il y a eu très tôt la blessure de Joseph Martinez cette saison en premier match. Donc, ça a été encore une fois compliqué pour lui. Ensuite, des renforts qui ne sont pas arrivés, des départs pas remplacé, donc c'est vraiment compliqué pour lui aussi, je pense, en tant qu'entraîneur de gérer cette situation. Et pour moi, voilà, Atlanta a fait l'impasse sur la saison. Quand on a vu tous ces joueurs là de côté, Pitty qui s'en va en plein milieu de saison, même s'il n'était pas en très grande forme du côté d'Atlanta, c'est quand même un joueur voilà qui pouvait apporter son expérience et qui a manqué en fin de saison. et qui n'a pas été vraiment remplacé puisqu'on a pris Moreno qui n'est pas du tout au même poste. Donc voilà, je pense que c'est une saison un peu où Atlanta a fait l'impasse pour peut-être se reconstruire la saison prochaine. Donc pour moi, voilà, ces trois coachs-là, on pouvait sentir le départ.
Ouais, non, c'est assez logique ce que tu dis, mais après, bon, c'est assez facile de le dire après coup. Mais bon, tu as complètement raison, je suis d'accord avec
c'est
toi,
ça,
Raphaël.
Ouais.
Je suis complètement d'accord avec toi et avec les arguments que tu avances. J'aimerais vous poser une question par rapport à cette course, à ces travaux, à ces postes de rêve. Bon, il y a trois choix d'habitude qu'une franchise peut prendre, en tout cas en MLS, et qu'on a l'habitude de voir. On a soit le jeune entraîneur nord-américain inexpérimenté à ce niveau-là. On l'a vu dernièrement, ou il y a longtemps, on avait vu John Curtin, il y a quand même assez longtemps. On a vu des nouveaux entraîneurs, un peu comme Lucci Gonzalez ou Tabramos, par exemple. On a aussi le choix de l'entraîneur expérimenté de MLS, des gens des entraîneurs qui sont là en MLS ou en USL, un peu comme les Gary Smith ou comme les Oscar Pereira ou comme les Bruce Arena. Ou bien on a l'option entraîneur étranger. On la voit de plus en plus ici en MLS. On voit des Yap Stam, des Raphaël Vicky, des Thierry Henry, ou même des Gérard Strouber dernièrement du côté des Red Bulls de New York. Est-ce que pour vous, si jamais j'aimerais avoir votre avis sur chacun des clubs, selon vous, quel est le genre d'entraîneur, quel est le profil parmi ces trois profils-là vers qui les clubs vont se tourner?
Je peux commencer?
Ouais, vas-y, vas-y.
Oui, vas-y.
Pour moi, le LA Galaxy, en fait, je pense qu'il n'y a vraiment pas de surprise que ça va être Craig Vanney. Parce que je vois pas pourquoi il partirait de Toronto s'il n'avait pas un contrat déjà prêt pour le Galaxy. En plus, il y a zéro rumeur pour les entraîneurs du Galaxy. Donc, enfin, pour moi, c'est sûr, ils ont contacté personne d'autre. Et Vanney, il part de Toronto pour le Galaxy. Et c'est exactement ce qu'il faut. Parce qu'il faut un mec qui puisse reconstruire un petit peu toute la structure du Galaxy. Peut-être un petit peu faire en sorte que l'académie se développe, que l'équipe 2 se développe. Un peu ce qu'il a fait à Toronto, il a fait émerger quelques jeunes. Donc je pense que le Galaxy font un plan à long terme. S'il ramène un étranger, il sera viré au bout de 6 mois si ça ne va pas. Alors que Vanny a aussi joué au Galaxy, donc ça colle vraiment parfaitement. Pour ce qui est d'Atlanta, il faut un étranger, pour moi, parce que c'est un club qui a l'habitude d'étrangers qui vraiment a explosé sous Tata Martino. On parle de Gabi Heinze notamment, ça serait génial pour. Enfin, j'étais en Argentine quand Heinze a commencé sa carrière d'entraîneur et il avait. Enfin, c'était un football génial du côté de Vélez et je pense qu'il a une grosse cote, on le voit pas mal en Europe donc ça serait super si Atlanta pouvait réussir à le prendre. On parle aussi de Vieira, ça m'étonnerait, c'est un peu plus compliqué je pense puisqu'il est parti de la MLS. Je pense pas qu'il reviendra malgré son licenciement de Nice mais à voir. D'ici, je pense qu'il devrait chercher en MLS parce que c'est un club qui a besoin aussi de restructuration au niveau de sa deuxième équipe, au niveau de ses choix de draft ou de trade à l'intérieur de la MLS. Et donc, il faut un mec avec de l'expérience. On parle de Chris Armas, je verrais bien aussi. Il y a des assistants de Columbus, de Seattle qui sont souvent cités, ça peut être pas mal. On a vu que Robin Fraser, par exemple, qui était un ancien assistant à Toronto, se débrouille très très bien du côté des Rapids. Schmetzer, ancien assistant aussi. C'est oui, très bien. Donc, à mon avis, il y a des mecs dans les staffs de MLS qui sont à chercher. Et enfin, Toronto, ça, c'est un peu mon grand point d'interrogation. J'ai vu sur Twitter ce matin qu'apparemment Paolo Souza, l'ancien entraîneur de Bordeaux, a été contacté. Je ne sais pas si c'est très bien pour Toronto, un étranger. Enfin, c'est un peu compliqué de se projeter derrière Greg Vanney parce qu'il était là depuis tellement longtemps. Après, il n'y a pas énormément d'entraîneurs de MLS qui sont libres sur le marché à part Chris Armas. Il y en a pas des masses, donc pourquoi pas chercher à l'étranger? En fait, tous les entraîneurs que les clubs cherchaient il y a 2-3 ans, qui étaient américains, qui venaient de la MLS ou autre, ont des jobs maintenant. Les Brian Schmetzer, il était interviewé à chaque fois qu'il y avait une ouverture de poste. Pareil pour Marc Dos Santos, pareil pour Savarese, pardon, l'entraîneur de Portland, qui était Dos Santos et Savarese étaient tous. Dans les deuxièmes, troisièmes divisions. Et donc, en fait, il n'y a plus beaucoup d'entraîneurs libres, à part quelques assistants ici et là. Donc, peut-être que Toronto va devoir se tourner vers l'étranger. Mais je ne sais pas, vous suivez la Ligue 1 plus que moi, et je pense pas que Souza, apparemment, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, à voir.
Raphaël?
Ouais, je suis assez d'accord avec Antoine. Bon, on va commencer du coup par Atlanta, parce que je pense que c'est là où on aura peut-être des nouvelles le plus rapidement. Bon, on peut encore avoir des surprises, mais en tout cas, voilà, a priori, Gabriel Heinze devrait rejoindre Atlanta prochainement. C'est ce qui a été annoncé par plusieurs médias. Même en France, on en a entendu parler. Beansport en a parlé aussi. Donc, ça semble bien avancé pour que ce type de gros médias en parle. J'ai vu aussi qu'il viendrait avec Javier Mascherano dans ses bagages comme assistant. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant. Je pense que c'est... voilà, Heinze, ça peut être un peu le football romantique. C'est ce genre de choses, d'émotions qu'on n'a pas eu à Atlanta avec Franck de Boer. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant. Je suis assez excité à cette idée-là, en tout cas, parce que c'est en plus un joueur que j'apprécie beaucoup. Et en tant qu'entraîneur, j'ai entendu parler de lui, notamment effectivement à Vélez, où il faisait des bonnes choses. Et ça me semble vraiment être un futur très bon entraîneur. Donc, je pense que voilà, Atlanta, ça pourrait être une étape assez logique dans sa progression de coach. J'espère que s'il vient, il aura des moyens. En tout cas, il aura le droit d'avoir l'impact sur son équipe et décider des joueurs qui peut signer, décider de son effectif comme il l'entend. Parce que je pense que c'est le genre de coach qui aime bien ça, qui aime bien avoir un peu la main dessus. Du côté de DC, effectivement, je pense que là, on va plus chercher un entraîneur qui a roulé sa bosse en MLS, qui connaît le championnat. Et effectivement, je pense que donc Chris Armas, comme l'a dit Antoine, qui est évoqué, ça pourrait être un bon choix pour cette équipe-là. Après, je suis pas un expert des Red Bulls, mais je pense que voilà, c'est un entraîneur qui connaît bien la MLS, qui était adjoint aux Red Bulls avant de devenir titulaire. Donc à mon avis, pourquoi pas. Je crois qu'aussi, il a fait les Chicago Fire il y a quelques années aussi. Donc, pourquoi pas. Je pense que c'est un coach qui connaît bien le championnat et qui pourrait être intéressant pour DC. Pour le Galaxy, je suis un peu du même avis qu'Antoine. Je pense que si Greg Vanney est parti de Toronto, ce n'est pas sans raison. Parce que, alors, il a expliqué que pour lui, c'est un coach en plus à projet qui aime bien construire un projet sur le long terme. Et pour lui, Toronto, c'était fini et qu'il avait fait ce qu'il voulait. Bon, ben, s'il y a une équipe qui a besoin de projets à long terme aujourd'hui, c'est le LA Galaxy. donc, effectivement, on l'attend. Ce serait intéressant d'avoir un... Moi, en tout cas, je serais content d'avoir ce genre de joueur-là. C'est un joueur qui pourrait coller en plus à l'ADN du club, comme l'a dit Antoine. Donc, qui pourrait coller à l'ADN du club. Donc, oui, ce serait intéressant de l'avoir. Je pense qu'il y a vraiment un projet à reconstruire à Los Angeles, parce que depuis quelques années, c'est vraiment compliqué. Même avec Guillermo Barros-Queloto, ça a été compliqué. Et je pense que voilà, faut repartir sur une nouvelle base, retrouver l'ADN de cette équipe et voilà, repartir aussi sur une bonne défense, parce que c'est clairement ce qui manque à Los Angeles sur les dernières saisons. Donc voilà, je pense que ce serait un très bon choix pour lui, un challenge intéressant, et pour le club. Un entraîneur expérimenté qui est un bâtisseur. Donc vraiment, ce serait assez intéressant à suivre. Et enfin, pour Toronto, alors je pense que, bon, je ne sais pas s'ils ont été pris de court, en tout cas, on n'a pas eu encore beaucoup de rumeurs. Effectivement, j'ai vu, comme disait Antoine aussi ce matin sur le tweet de Culture Soccer, j'ai vu qu'il y avait une rumeur pour Paulo Sousa. C'est un entraîneur qui est assez particulier, qui est en fait. Son expérience à Bordeaux, elle était assez originale, parce qu'il a eu un moment où il était un peu en état de grâce, où ça marchait bien, et en plus, bon, les supporters avaient conscience qu'il n'avait pas forcément l'équipe qu'il voulait, qu'il y avait des difficultés avec King Street, qui est propriétaire des Girondins de Bordeaux, donc il y a eu quelques difficultés aussi pour le recrutement, pour le mercato, et les supporters l'ont plutôt soutenu. Et ensuite, il y a eu, je ne me rappelle plus trop comment s'est passé son départ, mais c'est vrai qu'il a été un peu vu comme un mercenaire, dans le sens où il voulait partir avec son argent, donc ce qui est plutôt légitime finalement. Mais bon, c'est vrai que ça peut être mal vu du côté des supporters. Et avant ça, il a eu quelques expériences plutôt correctes, sans forcément trop briller, dans différents clubs en Europe et même dans des destinations un peu exotiques. Je crois qu'il était à Tel Aviv, il a été aussi, il me semble, en Chine, juste avant Bordeaux.
En Hongrie donc, aussi.
En Hongrie, donc oui, c'est voilà, c'est pourquoi pas. Je sais pas si ce serait le meilleur choix pour Toronto, parce que après un entraîneur qui est vraiment Vanney, pour moi, c'est vraiment un entraîneur qui connaît bien ce championnat, qui est vraiment construit quelque chose de solide à Toronto. un entraîneur comme Souza qui est plus un entraîneur qui aime voyager, je pense que c'est, ouais, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc, après, je connais pas les autres rumeurs, mais moi, si j'étais Toronto, j'irais chercher peut-être un entraîneur plus expérimenté en MLS, mais c'est vrai que c'est compliqué, il y a de moins en moins ce type de profil sur le marché. Donc ouais, ça va être assez intéressant à suivre, cette valse des entraîneurs.
Ouais, ben parfait. Je suis un peu d'accord avec beaucoup de vos choix. Ben, du côté d'Atlanta, je vais aller beaucoup, je vais pas trop répéter, mais Gabby Ainsi, ce serait un excellent choix. On a vu qu'ils ont fait le style du même style quand ils ont recruté Tata Martino à un moment donné. Bon, Martino avait beaucoup plus d'expérience, mais on voit aussi un peu la filiale argentine, ça a marché, donc pourquoi pas réessayer de nouveau. C'est un jeune entraîneur, on connaît sa carrière de joueur, on voit qu'il a quand même fait ses marques en Argentine avec Vélez. Donc oui, pour moi, Atlanta, je pense que Heinze, ça colle parfaitement à ça, puis je pense que c'est ça qui va se passer. Du côté de DC United aussi, je suis d'accord avec vous, je vois plus un entraîneur américain de MLS, mais est-ce que je vois Chris Armas ou est-ce que je vois un peu le genre d'entraîneur qui va venir et frapper un jeune entraîneur? Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent avec un jeune entraîneur. Ça ne m'étonnerait pas, par exemple, qu'ils gardent Chad Ashton ou un jeune entraîneur qui a un peu moins d'expérience qui va venir et qui va un peu révolutionner le tout. Pour ce qui est de Toronto, je vais vous expliquer quelque chose et je pense que je l'ai dit plusieurs fois sur ce podcast-là. Je ne suis pas fan du tout, mais alors pas du tout de Ali Curtis, mais vraiment pas du tout, qui est le manager général de Toronto, qui a remplacé lui Tim Bezbatchenko qui est parti à Columbus. Et pour moi, les décisions d'Ali Curtis d'habitude, c'est des décisions d'habitude qui font couler le club. J'ai pas du tout aimé son travail du côté des Red Bulls et j'ai comme l'impression que son choix va pas être parfait. Donc, c'est pas parce que je suis fan de l'Impact et anti-Toronto, c'est pas vrai. Je parle d'une manière vraiment très objective. J'ai comme l'impression qu'Ali Curtis va pas avoir le bon choix du côté de Toronto. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait, par exemple, un Paulo Souza ou quelqu'un qui va venir, un peu comme tu l'as dit, Raphaël, un an, puis s'en aller, quels que soient les résultats et ainsi de suite. On va voir la patte d'Ali Curtis qui est, pour moi, pas la patte qu'il faut dans un club comme Toronto. Et enfin, LA Galaxy, je pense que je l'ai dit dès que j'ai vu, il va au Galaxy avec Greg Vanney, c'est sûr. Il y a impossible que ce soit autre chose. Greg Vanney, c'est quelqu'un qui a joué au Galaxy de 96 à 2002. Il a fini sa carrière au Galaxy. Il a une relation très, très particulière avec le club et avec les supporters là-bas. Je pense que c'est comme tout tracé. On savait que Greg Vanney allait aller au Galaxy. Ou bien il pourrait nous surprendre et aller en Europe, ce qui pourrait être quelque chose aussi de très intéressant. On verra bien, mais j'ai comme l'impression que Greg Vanney a quitté Toronto pour aller au Galaxy, comme vous deux. Donc voilà mon impression là-dessus. Je pense qu'Antoine, tu voulais réagir sur quelque chose?
Oui, c'était juste pour DC, quand je parlais de jeunes entraîneurs un petit peu qui pourraient arriver là-bas. Ça va être dur à mon avis, parce que le CV de Chris Armas, forcément, il a eu d'expérience au Red Bulls comme adjoint de Jesse Marsh. Donc il n'y a pas que son échec au Red Bulls quand il est entraîneur, il y a quand même un gros CV. Mais il y a notamment Gonzalo Pineda à Seattle qui était apparemment tracé en Liga Métis aussi et qui est un mec qui revient souvent dans les discussions. En tant que possible entraîneur d'une franchise MLS, donc ça ne m'étonnerait pas de le voir arriver. En tout cas, voilà, c'était juste pour glisser ce nom qui, à mon avis, pourrait prendre les rênes d'un club MLS d'ici un an ou deux dès qu'un poste se libère et qu'ils sont prêts à tenter un pari avec un adjoint de club MLS.
Parfait. Raphaël, quelque chose à ajouter sur ce sujet-là?
Non, je pense qu'on a fait un tour assez complet, si ce n'est voilà, que effectivement, si c'est voilà, le LA Galaxy fait Greg Vanney, je serais très satisfait et je pense que ce serait voilà, intéressant de suivre ce projet-là parce que ce club a besoin de repartir sa nouvelle base et je pense que c'est le type d'entraîneur qu'il faut. Et comme tu l'as dit, il a joué au club, donc souvent on sait que les clubs comme ça aiment bien aller chercher des anciens joueurs, des personnes qui connaissent déjà l'environnement, donc c'est intéressant. Et bon, là, je parle vraiment en tant que gestionnaire des comptes d'Atlanta et LA Galaxy, mais voilà, Ainsi aussi, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Je serais très content de voir venir à Atlanta. Donc, si ça se fait, en tout cas, voilà, ce serait deux satisfactions pour moi et ça pourrait me permettre de passer à autre chose sur cette saison compliquée pour les deux clubs.
En tout cas, rien de mieux pour moi que de voir un Raphaël heureux. C'est ce qu'on te souhaite, mon ami. Les amis, ben, je veux vous remercier. On ne va pas avoir le temps de faire le sujet bonus. On le fera pour une autre fois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi de MLS et tout ce qui est en train de se passer présentement. Comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup que vous suiviez tous les comptes FR d'Atlanta et de LA Galaxy que Raphaël gère. Et bien évidemment, pour ceux qui le savent, ben Antoine, c'est lui qui gère en grande partie le compte de Culture Soccer de Twitter. Donc, vraiment deux personnes qui sont très importantes pour la culture de foot nord-américaine francophone. Donc, à suivre très sincèrement. Merci à vous deux. Et puis, merci à vous tous, les amis, de nous écouter de semaine en semaine sur Culture Soccer, le podcast. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast-là.